Je vais travailler à une autre échelle. Alors, les problématiques vont recouper celles de mon prédécesseur. Mais je vais vous présenter l'historique, en fait, d'une petite vallée, d'une rivière qui s'appelle la Merle, donc dans le bassin Ouillé-Lorin. Une rivière de 7 km seulement, mais qui est apparue autour d'une étude historique que j'ai eu l'occasion de faire pour le PML Lorraine, hein, c'est-à-dire cet établissement qui a été créé pour gérer le devenir des terrains dégradés, hein, c'est le terme utilisé, qui a permis de mettre en évidence effectivement la problématique liée autour de l'eau. Alors, c'est ça. Voilà. Alors bon, la problématique de l'eau, elle est donc centrale dans cette communication, puisque la définition même du territoire étudié, qui intéresse 4 communes, était liée à la présence de cette rivière et à toutes les transformations qui ont été effectuées pendant le temps de l'exploitation minière. Alors, il est donc apparu que, quand je parle de capture de la rivière, c'est qu'effectivement, il y a eu un avant la mine, un après la mine, et qu'à un moment donné, l'industrie minière, dans un paysage à petit relief, à la différence du Nord, a nécessité énormément de terrassement, une appropriation d'un espace et une création d'un autre paysage typiquement minier, qui aujourd'hui, dans la période d'après-mine, présente des conséquences problématiques qu'il faut effectivement gérer. Alors voilà le bassin Ouillé, hein. Je veux dire, il y a une souris. Ah, pardon. C'est apparent là. Bon, bref, voilà le bassin Ouillé, hein. Je pense que ça vous apprend rien. Sa particularité, c'est que le gisement est transfrontalier et que la partie de la mer dont je vais parler, c'est ce qui se trouve au centre. Je ne sais pas si c'est assez lisible pour vous. Oui. C'est donc de cette partie-là. À cette partie-là. Voilà, c'est cette section-là. Et en fait, les événements qui ont marqué la vallée de la Merle peuvent être reproduits pour la Rosselle dans laquelle se jette la Merle. Et je rappelle que la Rosselle se jette dans la Sarre et que tous les problèmes liés à l'eau, notamment de pollution, et j'aurai l'occasion d'en parler, intéressent également les riverains sarrois. Voilà. Alors, la mer avant la mine, hein, je vais aller très rapidement, c'est le développement proto-industriel, comme dans la plupart des régions, où il y a de l'eau, il y a eu des moulins, il y a eu effectivement un développement de l'industrie, très très limité dans ces secteurs, dans la mesure où, il y a eu le terroir est très pauvre, il y a eu de la métallurgie, de la verrerie, de la clouterie, mais bon, c'était une région finalement très peu peuplée. La plupart des localités de ce secteur-là n'excédaient pas 300 habitants avant la mine, hein. Par contre, il y a eu à Sainte-Fontaine, il y a quand même eu un complexe métallurgique assez intéressant qui est du 18e, 19e siècle, composé d'une platinerie, d'une forge et qui avait été développé par la famille de Vindel. Voilà, donc quand même quatre établissements avec des étangs servant de retenue d'eau. Alors la mer et la Rosselle, donc affluent de la Sarre allemande, voilà une carte du bassin versant. En fait, on peut prendre à ce moment-là ici la Vistaine, j'en parle maintenant parce que j'y reviendrai plus tard, la Vistaine qui est ce petit ruisseau qui se jette donc dans la mer que voilà, la Rosselle qui va donc jusque-là et la Sarre que voici. Alors, des caractéristiques de terrain et d'hydrologique assez particuliers, qualifiés de spécial et sans équivalent en France pour ce qui concerne la Lorraine, c'est des morts terrains épais, poreux, c'est pas de la craie, c'est du grès, très aquifères et parcourus de fissures et de failles, je veux dire, à l'origine, avant l'exploitation. On va dire que l'exploitation a singulièrement aggravé cette situation. Un niveau hydrostatique sous-jacent, je veux dire, à quelques dizaines de mètres de la surface, et dans la mesure où on est dans un relief assez accidenté, il est sous-jacent à certains endroits. Avec en plus un terrain traversé de gisements d'eau souterrains et de nourrices d'eau sous pression. Donc des coups d'eau dans les exploitations, parfois très, très, très graves, très meurtriers, et qui a aussi ces venues d'eau incontrôlées ont aussi contrarié beaucoup le travail de fonçage des puits. Un quart des puits qui ont été foncés dans le bassin Ouillé-Lorin ont été abandonnés pour cause de venues d'eau incontrôlées. Sur 57 puits, c'est quand même assez conséquent. Et puis un charbon très grisouteux, c'est à préciser, dans la mesure où ça a nécessité très tôt la généralisation du remblayage hydraulique. C'est autant d'eau qui est introduite dans le sous-sol et qu'il faut à un moment donné exorer et traiter. Donc l'eau est vraiment, un élément indispensable à l'exploitation et en même temps source de grands risques. Alors voilà les caractéristiques d'une exploitation transfrontalière. C'est important, pas seulement au niveau du cours d'eau lui-même. C'est aussi que dans cette partie-là du gisement, j'ai montré les cartes seulement à partir du 19, le gisement ici, voilà la frontière du Nord, donc Sarre-Lorraine, et que le gisement ici a été exploité par les Français sous forme d'amodiation, donc de 1919 à 1935. On voit que ce gisement s'est étendu entre 1946 et 1956, qui est la deuxième amodiation française en territoire Sahara, après la guerre. Et puis ici, à partir de sur cette carte-là, on voit finalement que c'est les Sarrois qui vont exploiter les chantiers qui n'ont pas été épuisés par du temps d'exploitation française, et ils vont exploiter au-delà de la frontière, mais côté français. Alors ça va créer ça intéresse mon propos, parce que la production, les dégâts au niveau des terrains se sont aggravés du fait de cette exploitation transfrontalière. Ça pose le problème de qui traite sous son sous-sol, voilà. Et puis ça crée aussi, à un moment donné, une situation où en terre Lorraine vont être stockés des stériles sarrois. Voilà. Ce que montrent aussi ces cartes, c'est que ici se trouvent les premiers puits exploités du côté de l'hôpital et de Carlin, petite localité. Ces puits ont été abandonnés non seulement parce qu'il y avait des conditions d'exploitation qui n'étaient pas favorables, mais c'est ici que se trouvait finalement le gisement le plus exploitable, avec en particulier à Merlebach les fameux dressants. Les dressants, c'est donc des veines de pendage entre 60 et 90% dans cet endroit-là. Donc dressant et semi-dressant ici, avec cette localité, était considérée comme le Texas français du point de vue de l'exploitation houillère. Voilà. Alors les événements qui sont liés donc, qu'a pu mettre en évidence cette étude, et qui intéressent la vallée et la rivière, c'est effectivement la création de puits dans ce secteur-là. Donc ça, c'est abandonné. Mais ces puits, je veux dire, c'est effectivement des carreaux miniers installés, des terrils. C'est un terrassement important au niveau de la vallée. La vallée a été profilée, retaillée. C'est une toute petite vallée avec des flancs en V. Et il a fallu à chaque fois gagner sur les petites collines pour pouvoir installer toutes ces exploitations minières. Dès 1870, on note les premières sources taries par les forages. Bon, alors c'est les sources taries, ça veut dire que c'était l'approvisionnement en eau potable de la région. Comblement du fond de vallée, avec les stériles liés au premier creusement de puits, on ne s'est pas embêté, on a versé ces stériles-là dans la vallée, du côté de l'hôpital et de Carlin en particulier. Le profil de la vallée retaillée, donc, alors c'est pas seulement les carreaux, c'est les voies ferrées. Au maximum de son développement, et pour l'ensemble du bassin houillé, le réseau ferroviaire, c'était 500 km de voies normales et 400 km de voies étroites. Bon, c'est beaucoup de voies ferrées qui se sont rajoutées à la voie ferrée initiale qui date de 1860, qui ont été doublées, quadruplées, et parfois à certains endroits, il y avait 10 voies côte à côte. Voilà, toutes ces installations qui finalement sont venues encombrer cette petite vallée du départ. Alors l'eau de la mer, elle est captée, détournée, canalisée, endiguée. J'ai eu l'occasion de faire le relevé chronologique de tous les événements depuis, donc, c'est la recherche historique qui a permis de faire cela, de tous les événements qui, effectivement, ils sont innombrables, et on voit que finalement, quand on parle d'instrumentalisation de la rivière, c'est qu'effectivement, elle a à un moment donné uniquement eu un usage pour les exploitations minières. Et puis, ce qui a posé beaucoup de problèmes, c'est que ces eaux industrielles sont rejetées dans la Merle. Alors, les eaux d'Exor, dont j'ai précisé tout à l'heure qu'elles étaient très importantes, dans la mesure où le remblayage hydraulique a été généralisé dès 1920. Il avait déjà lieu avant, mais bon, il a été généralisé. Bon, c'est aussi les lavoirs qui rejettent de l'eau chargée de schlamm, les coqueries qui rejettent des suies, la centrale qui chauffe les eaux, la carbochimie, les cités. Enfin, énormément de besoins. Industriels surtout, qui à un moment donné vont capter l'eau et la rejeter sous une forme chargée. Et la canalisation du cours d'eau en plusieurs endroits, avec même une surélévation liée déjà à des problèmes d'inondation et de débordement. Alors, comme événement aussi, bon, c'est tout ce développement des infrastructures. Alors, pas seulement aérien et souterrain. Je vais montrer quelques photos, hein, vous allez vous rendre compte. Mais effectivement, à un moment donné, ces photos, je n'ai pas pu en montrer beaucoup. Mais on voit même l'espace aérien complètement sursaturé d'infrastructures, des passerelles pour piétons, des passerelles qui relient des silos avec un lavoir. C'est vraiment un espace extrêmement occupé en souterrain et en aérien. Multiplication des bassins de décantation. Bon, c'est la première solution qui a été appliquée pour diminuer le rejet d'eau chargée de poussière ou de suie dans la rivière. Des réservoirs, aqueducs, carboducs, stations de pompage, stations d'épuration. Bon, et plus, c'est rajouté à partir de 1923 des réseaux d'eau potable pour les cités. L'eau était tellement mauvaise qu'on ne pouvait plus faire à manger et même pas faire les lessives. Les documents d'archives montrent pas mal de plaintes. Alors, les plaintes, effectivement, elles datent de 1904. Bon, date de 1904, c'est effectivement une date qui correspond à la vraie mise en place, au vrai développement de l'exploitation. Les puits antérieurs n'ayant pas été très, très, très productifs. On peut considérer, l'étude a montré que c'est en 1945, la vallée est complètement accaparée par l'industrie minière. Un accaparement qui correspond aux installations industrielles, mais également à toutes les cités qui se sont installées. Et voilà des épisodes fameux qu'on trouve dans la presse et dans les archives, le débordement de la rivière et l'inondation.
Il reste 5 minutes.
Ça va. Bon, alors voilà, bon, situation rapidement. Ici, le secteur Carlin-L'Hôpital avec les premiers puits. Ici, on a donc la Merle, avec qui pour le moment, je veux dire, avec tous les puits qui sont installés, les cités qui sont installées pas loin des puits. Voilà la situation en 1920-1945, quand on parle d'accaparement, en sachant que cette réserve foncière-là sera occupée également. On va passer peut-être tout de suite, comme c'est un peu pressé. Voilà la situation en 1990. On voit effectivement la Merle ici, hein, qui se jette dans la Rosselle ici, un espace complètement occupé pour les besoins des mines, que ce soit les puits, les carrières, avec son extension, dernière extension de 1977, et les cités. Voilà quelques photos. Les travaux qui ont été faits dans une rivière qui avait un profil très, très modeste, hein. On voit un petit peu l'ampleur, hein. Ici, c'est pour l'établissement d'un lavoir en 1960. Ici, c'est un doublement des voies. Ici, c'est un confortement de talus pour un terrassement. Voilà un puits de mine, un puits ici, qui s'est installé au bord de la rivière, avec toutes les infrastructures, lavoir, silos. Donc voilà, ici, un écartement déjà du profil de la rivière qui est assez significatif. Et cette carrière centrale, qui a été faite en plusieurs étapes, et à un moment donné, qui a utilisé aussi pour l'accumulation des stériles. Alors, les problématiques de l'héritage. Bon, voilà, ça, c'est les cartes du service des dégâts miniers. Alors, influence passée et future de l'exploitation. Ici se trouvent les dressants qui sont exploités. Je veux dire, voilà les failles qui sont apparues. C'est un problème d'affaissement minier important. Ici également, en fait, à différents endroits de la vallée de la Merle, des affaissements qui sont liés à l'exploitation et qui créent aussi des problèmes au niveau des cours d'eau. Voilà donc des incidents avec des inondations de bassins, de terrains. Il faut se rappeler qu'avant, il y avait des marécages au fond de la vallée. Hein. Donc voilà, des incidents à différents moments. Il a fallu canaliser en pleine ville, à Framin-Merlebach, il a fallu canaliser en souterrain la rivière. Des travaux, j'allais dire, problématiques en milieu habité. Alors voilà les travaux réalisés, hein, je veux dire, pratiquement tout le long. Voilà, ils ont eu lieu dans les années 1986, au début des années 80, où on atteint vraiment le summum des problèmes liés à la gestion de cet espace-là. Alors, bon, les pollutions d'exploitation, on passe aux pollutions toxiques. Alors, le rejet des schlammes, des suies, j'en ai parlé. Hein. Voilà les solutions qui ont été appliquées. L'une des solutions importantes qui apparaît qu'à partir de 1923, c'est quand même la séparation des réseaux d'eau industrielle et d'eau potable. Et puis, l'amélioration des équipements pollueurs. Et puis, voilà, bon, ici se trouve pôle chimique de Carlin. Ça se trouve ici. La première coquerie en 1910, entre 1910 et 1935, se sont rajoutées une centrale thermique, une centrale électrique et surtout un pôle chimie qui fabriquait en fait de ce qu'on appelle l'acide oxydrique, l'acétylène, qui fabriquait de l'ammoniac et qui a un très très important développement et qui se trouve en fait sur la Bistène, ce petit affluent, et en amont de la vallée de la Merle. Alors, il y a eu effectivement des incidents très graves, hein, des rejets accidentels de produits toxiques dans la Merle. On a installé une digue qui a régulièrement débordé. Il y a aussi l'analyse des... Bon, il y a eu à un moment donné, parce que les riverains se sont beaucoup plus... Et s'il n'y avait pas eu des riverains sarrois pour se plaindre de la pollution de la Rosselle sarroise et de la Sarre, hein, il n'y aurait peut-être pas eu cette analyse des effluents qui a relevé une toxicité élevée des eaux de la mer et de la Rosselle qui était comparée à un égout de grande ville. Voilà. Alors avec des quand même des composants graves, chrome arsenic, et puis même des bactéries d'origine fécale humaine et animale, je veux dire, parce que même les cités qui se sont beaucoup développées, je veux dire, produisaient elles-mêmes pas mal de pollution. Et puis quand même un événement, la disparition de la Rosselle. À ce niveau-là, vu la Rosselle, vu le mouvement des terrains, toutes les eaux qui circulent dans souterrain, dont on peut mal mesurer finalement les modifications, la Rosselle a carrément disparu. Moi, j'habitais juste à côté. Hein, voilà. Donc, il a fallu la canaliser en amont pour lui faire rejoindre son cours par ici. Voilà. Alors, ça, c'est un événement dont les gens parlent comme étant une désaventure du bassin Ouillé-Lorin, une disparition d'une rivière.
Il va falloir conclure.
Voilà, mais c'est terminé. Voilà. Donc, peut-être les trois scénarios qui ont été faits. Donc, à l'issue... Ah, il manque une image. Pardon. Enfin, bon, je crois que dans les options d'après-mine, je vois que dans le Nord, c'est pareil. Ce qu'on appelle la trame verte dans le Nord, je veux dire, a donné lieu en Lorraine, pour ce secteur-là, à un scénario nature. Alors, on voit que c'est effectivement... on privilégie le retour à la nature parce qu'il y a une faune et une flore particulières dans ces zones d'étéril et de carrière. Le scénario bleu tourisme, scénario rouge industriel et urbain. Bon, dans le détail, si ça vous intéresse, je pourrais y revenir tout à l'heure. Ce qui est important de noter aussi, c'est comme ce secteur-là était partagé entre trois communes, l'hôpital Saint-Avold des Frères-Manard-le-Bas, ces scénarios correspondent aux souhaits de chaque commune. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, les organismes qui s'occupent de requalifier les espaces dégradés, eh bien, sont parfois gênés aux entournures dans la mesure où les communes ne peuvent pas se mettre d'accord sur la réappropriation d'un espace industriel. Voilà. Je vous remercie.
Merci.